Cité chrétienne, le 10 mai 1985, Rimont.
Je prends tout de suite cette question. Si une éthique du droit naturel ou une éthique chrétienne, Maritain, supplante l'éthique proprement humaine, quel est le principal déséquilibre qui résultera de cet ontologisme pratique? Se traduit-il par un manque de réalisme dans l'amitié humaine et dans la prudence? Ou au contraire, cet ontologisme est-il sans conséquence, puisque nous sommes ici sur le plan de l'agir qui réclame l'unité? Ceci est la différence de l'ontologisme métaphysique. Oui, ça c'est une question très difficile, intéressante du reste. Cet ontologisme pratique, hein, vous voyez ce qu'on appelle l'ontologisme, hein, faut bien. Je crois que l'ontologisme, dans ce qu'il a de fondamental, c'est la confusion entre le niveau de l'intelligibilité et le niveau du réel. C'est ça qui est fondamental dans l'ontologisme. C'est pour ça que l'ontologisme représente comme un succès d'année du néoplatonisme, comme un succès d'année du platonisme et du néo. Alors, c'est un néo au carré. Non, c'est-à-dire, c'est du néoplatonisme la confusion entre l'ordre de l'intelligibilité et ce qui est. Par le fait même, il y a dans l'ontologisme ce fait que l'homme ne se définit que par Dieu. Et c'est pour ça que l'ontologisme appelle en réaction violente la libération de l'homme dans l'athéisme. Et que l'athéisme lui-même, la plupart du temps, est une sorte d'anti-ontologisme qui lui-même est un ontologisme, c'est-à-dire un anti-ontologisme, c'est-à-dire que dans les athéismes contemporains, prenez Feuerbach au point de départ, il y avait un séminaire sur Feuerbach hier à Rimont, c'est encore la confusion entre l'ordre de l'intelligibilité et l'ordre réel. Alors, dans un ontologisme pratique, c'est-à-dire ne pas distinguer les diverses finalités. De ce point de vue-là, on ne distingue pas la finalité propre de l'éthique humaine, de l'éthique religieuse et de l'éthique chrétienne. Alors, quand on ne fait plus cette distinction-là, quel est le déséquilibre principal qui en suit? Le manque de réalisme, c'est forcé. C'est un manque de réalisme. Alors, je crois que ça peut aboutir à une espèce d'illuminisme. Je crois que c'est surtout ça. Ça se traduit surtout du côté de l'illuminisme. C'est-à-dire que pratiquement, c'est un manque de prudence. La vertu de prudence n'est plus là pour respecter les plans différents. Et on télescope ces plans, et en télescopant ces plans, on tombe dans une espèce d'illuminisme. L'illuminisme, c'est oublier notre conditionnement humain. C'est parce que on le pose en nous, on croit que c'est arrivé. C'est ça l'illuminisme. L'illuminisme, c'est une confusion entre l'intelligibilité et la réalité. Parce qu'au plan de l'intentionnalité, on y arrive tout de suite. Au plan de la réalité, il faut des moyens. Alors, l'illuminisme, c'est de croire que parce qu'on en a l'intention, c'est la réalité. Je ne dis pas plus. C'est des questions, posez-les dans ce domaine-là, mais je crois qu'on ne prend la peine. Parce que je crois que, comme toujours, dans les erreurs, les conséquences sont multiples en fonction du sujet. c'est en fonction du sujet. Alors, il peut y avoir dans l'erreur la principale, je dirais celle-là. Mais on pourrait tomber aussi dans l'erreur. Ça, c'est maxima. C'est du côté, dans la mesure où, justement, le point de vue de la foi remplace le point de vue de l'intelligence. Quand le point de vue de la foi remplace le point de vue de l'intelligence, on tombe dans l'illuminisme. Ça, c'est sûr. Et alors, il pourrait y avoir aussi l'autre aspect, c'est que la foi est absorbée par la raison. Vous voyez, ce serait l'anti-illuminisme. L'anti-illuminisme, c'est de ne plus accepter du tout une intention de vie qui porte au-delà des moyens. Et alors on retomberait dans une espèce de scrupule des moyens. Et on mettrait un absolu dans les moyens. Je crois que ce seraient les deux conséquences extrêmes. Bon, alors nous allons continuer. Nous étions restés la dernière fois. Nous avions vu, je crois, c'était la question du mariage qu'on avait secoué dans tous les sens, savoir s'il y avait une femme ou deux femmes. C'était la question de savoir si naturellement on pouvait aboutir à la question de la fidélité dans le point de vue du mariage. S'il y a des questions encore, on peut en traiter. Autrement, j'ai envie de prendre quelque chose d'autre. J'avais dit qu'il y avait une question qui serait intéressante à traiter, c'était la question de la liberté religieuse. Il y avait une autre question. Ah oui, 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 oui. C'est toujours dans la liberté. Bon, alors on va voir ces deux questions, si vous voulez. La question de la liberté religieuse. Au niveau proprement, c'est important parce que quand on parle de la liberté, on parle de la liberté un peu en soi, ce qui est une erreur. On doit parler d'acte libre. Ce qui fait que la liberté est une notion analogique. Pas du tout une notion univoque. Tandis que quand vous parlez de la liberté en soi, vous risquez d'avoir une espèce de concept univoque de la liberté, alors qu'on ne sait plus très bien ce que c'est. Et puis très souvent, on définit la liberté de façon très négative, en ce sens qu'en disant on est libre quand il n'y a pas d'obstacle. Ça ne veut pas dire du tout. Il y a des gens qui ne sont pas libres même quand il n'y a pas d'obstacle. Et il y a des gens qui sont libres même quand il y a des obstacles. Ils ne réalisent pas ce qu'ils voudraient, ça c'est autre chose, mais ils gardent leur liberté. Alors, la liberté est une chose intérieure, ce n'est pas une chose extérieure. Alors, au niveau de l'éthique humaine, je reprends deux modes de demande de liberté, ou deux espèces de liberté. L'acte d'intention, l'acte de choix, l'acte, on en met trois, l'acte de libérer. Dès que je qualifie l'acte de libre, je vois tout de suite qu'il y a trois niveaux de liberté. Et ces trois niveaux de liberté ne sont pas les mêmes. L'intention, c'est-à-dire, je mettrais plutôt l'acte d'amour spirituel est accepté ou pas accepté et se transforme en acte d'intention. Oui. Un amour n'est jamais libre dans sa naissance. Pourquoi j'aime telle personne et telle autre, ça n'est complètement indifférent. Sur 10 000 personnes, il y en a une auquel je suis attiré et que j'aime. C'est un peu humain, ça. D'aimer les atomes crochus des philosophes. Pourquoi avec telle personne, c'est très facile, avec telle autre personne, c'est très difficile. Il y a des tempéraments amicabilis, comme disait le vieux philosophe. Il y a des gens qui sont amicabilis. Et puis il y a des gens qui ne sont pas. Je ne dis pas qu'ils sont anti-amicabilis, mais qui ne sont pas. Sont neutres. Je ne dis pas non plus une sainte neutralité, mais ils sont neutres. On peut les secouer dans tous les sens, ça ne remue pas. Alors, on est libre d'accepter cet amour. Ou on peut, au contraire, dire non, le rejeter. Vous êtes toujours libre d'accepter un amour. Dès que vous apercevez que vous aimez quelqu'un, dès que vous apercevez qu'il comment à naître un amour, une attirance. Je vais attirer vers quelqu'un. J'ai pris. C'est pas encore un grand feu, mais c'est une petite étincelle. C'est une petite étincelle qui commence. Je sais très bien que si je nourris cette étincelle, ça va devenir un grand feu. À ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile de l'éteindre. Il faut appeler le pompier. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que lorsqu'il est au point de départ, je suis libre d'arrêter ou dire. Au contraire, c'est très bien. Donc, il y a une liberté. Une liberté qui porte, vous voyez, c'est pas du tout une liberté de choix, c'est une liberté d'exercice. Je crois que c'est ce qu'on appelait la liberté de l'exercice. J'aime bien de la mettre par rapport à cet acte-là. On voit beaucoup mieux ce que c'est. Je suis libre d'accepter cet acte ou pas l'accepter. Et je peux tout faire pour le détourner.
Est-ce que là, il s'enracine une notion de... Il peut s'enraciner une notion de faute ou pas du tout?
Ah non, non. Ouais. Ah non, non, je pense à...
totalement libre de refuser.
Oui, c'est pas nécessairement une faute. Ben, si c'était pas moi, si cet amour risque d'être pécamineux, vous voyez, vous êtes... Vous êtes attiré vers quelqu'un qui est déjà marié et qui par le fait même, vous risquez à ce moment-là de faire un drame de famille. Alors, on dira attention, attention. Alors, il faut avoir une note suprême, un mot de prudence complet. Ça peut déjà être gagnant. C'est pas nécessairement. Je ne regarde pas ça ici. Vous voyez, je regarde ici uniquement le fait qu'on peut l'accepter ou qu'on peut le refuser. Oui, donc, il y a une liberté d'exercice qui porte sur le fait d'accepter cet amour ou pas l'accepter. Et dans la mesure où j'accepte cet amour, il se transforme en intention de vie. Il se transforme en intention de vie. Autrement, je le refoule. Mais je fais attention, parce qu'il y a une manière de refouler qui est très très mauvaise. Je ne veux pas te voir. Vite, mais puis en deux temps, on cesse de se rappeler. Vous voyez ça? Alors on nourrit cet amour qu'on a rejeté par l'imaginaire. Là, ça devient une espèce de hantise, impossible à porter. Lorsqu'il s'agit du choix, des moyens, j'ai demandé conseil, de nombreux choix ont apparu, des choix divers, pour atteindre cette fin, parce que c'est transformé en fin. Les moyens n'apparaissent qu'au niveau de la fin. C'est aussi très intéressant. Les moyens n'apparaissent qu'au niveau de la fin. Au niveau de l'amour, il n'y a pas de moyens. Parce qu'on a toujours, on veut toujours tout au niveau de l'amour. Tandis que dès que l'amour se transforme en une fin qu'on doit acquérir, alors à ce moment-là, il y a des moyens. C'est très curieux aussi de voir ça. Comment la fin permet de choisir des moyens. Alors que l'amour, quand vous restez uniquement au niveau de l'amour, vous êtes enfoui par cet amour. Il s'explique des quantités de choses, parce que quand il y a des moyens, vous prenez, il y a la distance. Au fond, je crois que c'est à cause de ça. Oui. C'est que quand vous regardez l'amour, il est immédiat, ça retombe dans l'ontologie, ce qu'on disait tout à l'heure. L'amour, il est immédiat intentionnellement. Je le porte en moi intentionnellement. Porte intentionnellement. J'aime. Aimer, c'est un acte intérieur intentionnel. Je m'aperçois de toute la distance qui existe entre cette personne que j'aime et la proximité que je pourrais avoir vis-à-vis d'elle. Je la considère comme une fin que je dois acquérir, que je dois conquérir. Et alors à ce moment-là, en la regardant comme fin, comme bien qui m'attire, je vois la distance. Parce que je vois la distance, les moyens apparaissent. Il faut, vous voyez, créer une distance entre le bien et moi pour que les moyens apparaissent. Et cette distance, ça c'est l'intelligence qui fait ça. C'est l'intelligence qui intervient pour faire que l'amour devienne intention. Et quand l'amour devient intention, je vois la distance qui existe entre le bien aimé et moi-même. Dans une position ontologique, si ça peut exister. J'aime, c'est suffisant, pas besoin d'autre chose. Ah non, il faut passer de l'amour à le point de vue de l'intention de vie pour comprendre toute la distance qui existe entre ce bien que j'aime et moi-même. Et donc je le considère comme fin. Et alors à ce moment-là, il y a une distance qui se crée. Et les moyens apparaissent. Et comme mes moyens sont multiples, je peux les choisir. Alors liberté de choix. C'est pas du tout la même chose. C'est deux espèces de liberté très différentes. Liberté de moyens, liberté d'exercice et liberté de choix. Alors la scolastique, de façon générale, a gardé ces deux modalités, la liberté d'exercice et la liberté de choix, sans préciser à quel moment. Je crois que c'est très important de considérer cette liberté très fondamentale, la liberté d'exercice, c'est la plus fondamentale. Je peux poser cet acte, je peux l'accepter cet acte, ou au contraire, je peux essayer par tous les moyens de me retirer. C'est jamais absolu, cette liberté d'exercice. C'est jamais absolu, c'est une liberté qui me permet de prendre mes distances, et que je veux prendre mes distances, mais c'est jamais absolu. La liberté de choix est beaucoup plus limitée. Et au fond, quand les psychologues parleront de motivation, les psychologues ne parleront que la liberté de moyens, la liberté de choix, les motivations. Quelles sont vos motivations? C'est-à-dire, quels sont vos choix? Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous êtes entré dans la communauté Saint-Jean librement, j'espère, librement. Quelle a été votre motivation? Parce que un copain est entré avant moi. Alors il m'a tracé la voie. Vous voyez, ça, c'est une motivation psychologique. Le psychologue se jette là-dessus avec délice. En montrant que vous voyez bien, vous n'êtes pas libre, vous avez fait uniquement motivation, vous avez suivi. Vous n'avez pas été. C'est pas un motif tout à fait libre. Et ainsi de suite, toutes les motivations qu'on peut donner qui sont secondaires. Il est de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. C'est tout à fait comme ça. Il est de Versailles, la ville de l'Arche. Il a vu ça, et c'est pour ça que je suis maintenant. Tous ceux qui ne sont pas de Versailles n'ont pas de motivation. Donc, le point de vue du choix, liberté de choix, qui porte sur le moyen et qui est une liberté, on a dit, très limitée. L'acte d'imperium fait ceci. C'est encore un acte libre. Normalement, l'acte d'imperium est un acte libre. Fait ceci. Nous retrouvons la liberté d'exercice. Alors, la grosse question qui se pose, c'est de savoir si la liberté d'exercice au niveau 1 est la même que la liberté d'exercice au niveau 3. Et entre 2 et 2. Deux libertés totalement. Alors, vous mettriez quelle différence entre les deux?
Est-ce que c'est nécessairement par orgueil qu'on refuse?
Pas nécessairement. Non, 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 ça peut être pour un autre motif. Ça peut être pour un autre motif. Vous voyez? Je suis très attiré par cette personne, mais je sais que c'est pas ce que je dois faire.
Alors, ça implique un choix.
Non. Pas un choix. Accepter cet amour. Ou pas l'accepter. On n'est pas obligé d'accepter tout à l'heure. Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout à l'heure. Et vous ne refusez pas un amour nécessairement à cause de l'orgueil. Autre chose, recevoir l'amour d'un autre, c'est pas la même chose. Quelqu'un fait des déclarations solennelles d'amour. Parce que je vous aime. Alors, refuser peut provenir d'un orgueil en disant non, tu n'es pas libre. Là, je ne veux pas du tout ça. Alors ça peut venir d'orgueil, c'est évident. On refuse l'amour de quelqu'un. Au contraire, l'accueillir, c'est normal, on n'a pas le droit de refuser. Tandis que je prends le cas exprès de celui qui aime. Et celui-là qui aime, il peut accepter ou pas accepter pour des raisons multiples. pour des raisons très très complexes. Que je ne vois pas maintenant, parce que c'est des raisons de vie. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type de liberté y a-t-il d'accepter ou de ne pas accepter ce premier amour.
Est-ce qu'on peut dire que le troisième type de liberté demande de s'extérioriser, d'être connu,
Sûrement, sûrement, il demande de passer à l'acte. Oui, mais c'est pas ça que je cherche ici. J'essaie de chercher, enfin, c'est ça qui est difficile, parce que c'est de chercher ces modes différents de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a de différent de la liberté? Analysons. Qu'est-ce qui fait qu'un acte est libre? C'est complexe. Hein, c'est jamais simple. Dès que je suis au niveau de la liberté, c'est jamais simple. C'est toujours complexe. Il y a toujours le point de vue d'intelligence et le point de vue d'amour. Alors, c'est toujours deux éléments. Par l'intelligence, en fait, il peut mesurer. Ça, c'est vrai, il n'en peut pas devenir, mais pas toujours. Il y a l'intelligence, il n'y a pas d'acte libre sans l'intelligence. Et il n'y a pas d'acte libre sans amour. Mais quel est le lien qui existe entre le point de vue de l'amour et l'intelligence dans ces différents actes? Oui, alors on dira le libre arbitre. Hein. Ça, c'est très bien. Les théologiens parlent du libre arbitre. Et en prenant le libre arbitre, ils essaieront de comprendre la capacité que j'ai de poser un acte libre. Et dans le libre arbitre, on met intelligence et volonté. Le libre arbitre n'est pas une nouvelle faculté. C'est toujours donc ce qui montre bien que l'acte libre est toujours complexe. Et parce qu'il est complexe, c'est tout à fait normal de trouver des modalités différentes. Autrement dit, l'ingrédient intelligence avec le point de vue de l'amour ne se compose pas de la même façon. Et c'est ça qui, je crois, est intéressant à noter et à essayer de comprendre. Oui.
Est-ce que la libre n'existe pas dès que la fin ne s'impose pas d'une manière nécessaire?
Vous dites que la liberté...
Dès que la fin ne s'impose pas d'une manière nécessaire.
Dès que le bien.
Ah oui, le bien, ou ce qui est ordonné.
Oui, je mets d'accord le bien, je ne veux pas uniquement la fin. Je mets le bien. Vous voyez, c'est quand le bien. Et le bien ne s'impose jamais d'une façon nécessaire.
Ça, c'est que dans le premier amour, le bien s'impose d'une certaine manière.
Non, pas d'une façon nécessaire. Ben non.
Je suis attiré.
Je suis attiré. Ah, l'amour lui-même n'est pas libre. Je suis attiré, je suis pris, tout simplement. Mais, je veux dire, la personne humaine qui aime peut toujours prendre ses distances par rapport à cet amour.
Voilà, c'est ça. Donc, elle n'est pas obligée. Le bien s'impose, mais pas la fin. Ni les moyens pour mettre à la fin.
Non, je ne dirais pas que ce bien s'impose, moi. Parce qu'alors, vous direz que tout acte d'amour, il faut nécessairement le suivre. Je dirais, l'acte d'amour, prenez ce premier acte d'amour, il s'impose, il existe. Je ne dirais pas il s'impose, il est. Il est né, je ne sais pas comment. Il est né à cause de ce bien qui m'attire. Cette personne qui m'attire.
Comme à ce niveau-là, il n'y a pas de liberté.
Non, il n'y a pas de liberté. C'est pas un peu ça que ça s'impose.
Sans dire qu'il s'impose, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre.
Oui, mais on peut considérer comme étant ni libre ni imposant. Il est. Je constate qu'il existe. Oui, stop-là. C'est très important parce que, vous voyez, ça montre que l'amour en soi est au-delà de la liberté. C'est le bien qui m'attire et le bien suscite en moi cet amour. Et cet amour, je le constate, il existe. Et je vais être capable de comprendre si cet amour est mon bien. Et si ce bien qui m'attire, c'est vraiment mon bien. Ou au contraire, il vaut mieux pas. Personne. Elle est louche. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Il y a quelque chose qui est... Alors, à partir de là, vous voyez, il y a une distance qu'on prend. Cette distance, qu'est-ce qui prend cette distance? C'est l'intelligence. Donc, il y a amour et intelligence. Et je suis capable, à ce moment-là, de considérer que cet amour qui est né, qui pourrait très bien s'imposer si je le laissais grandir en moi, surtout qu'il est lié avec un amour passionnel qui était lié à tant de choses. Alors, cet amour, je l'ai constaté avec lucidité, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. L'accepter ou pas l'accepter, c'est l'intelligence. Si j'accepte, il devient fin, il devient mon bien, et ma fin, capable de me perfectionner. Si je n'accepte pas, je l'aligne, je me détourne. Donc, c'est l'intelligence qui va pouvoir juger de la convenance de ce bien par rapport à moi-même. Oui.
Est-ce que, en généralisant, on ne peut dire que tout acte de la partie supérieure de notre âme, dès qu'on dépasse les passions, eh bien, la liberté est en jeu. On pourrait peut-être rattacher ainsi la liberté à un acte de la personne, étant donné de plus que...
Est-ce que vous dites... Au fond, je parle d'un amour spirituel, donc d'un amour personnel. Parce qu'au niveau passionnel, ça n'existe pas. Il n'est pas lucide. Un être qui est purement passionné, il est passionné, c'est tout, il ne pourra pas. Mais c'est tout. Il n'est pas passionné, il peut voir les autres dire, mais tu vois ce que tu fais, tu ne t'aperçois pas de ce que tu fais. Il est passionné.
Je veux dire, pour dépasser l'aspect seulement éthique.
C'est pour ça que je dis que je suis là au-delà de l'éthique. C'est pour ça que tout à l'heure, au point du péché, je n'aimais pas beaucoup parce que je suis au-delà de l'éthique. Je suis dans quelque chose de vital en moi. C'est ma vie spirituelle, c'est ma vie personnelle, c'est mon amour spirituel. Vous voyez ? Parce que l'amour purement passionnel, il n'y a pas de question qui se pose. C'est le moment où vous dépassez la passion, la question se pose. Et tant que vous êtes uniquement au niveau de la passion, regardez, j'ai beaucoup de jeunes aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça, dans tous les jeunes, c'est que quand ils sont pris passionnellement, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. La question se pose quand on est à un niveau d'amour spirituel. Et c'est pour ça que la liberté ne peut naître qu'à un niveau personnel. Ça, il n'y a pas moyen autrement. Au niveau passion, il n'y a pas de liberté. Il faut dépasser la passion, il faut donc l'éveil d'un amour spirituel pour que le problème de la liberté se pose.
Est-ce qu'il
n'y
a pas aussi une preuve que tout acte libre peut dire qu'il est responsable aussi?
Oui, il est responsable. Tout à fait d'accord. Et s'il n'est pas responsable, c'est pour ça que ce premier amour, je ne parle pas de responsable, quand même, il est. Je trouve ça. J'aime. Et quand on n'a jamais aimé sa vie, on est tous stupéfaits. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose qui. Le cœur est chaud, blanc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'ai jamais reçu ça. Ça vient de vous dire. Il y a des tas de choses, mais tout d'un coup, je deviens intelligent. Par rapport à la personne, je vous mets à chanter, exulter. C'est parce que il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi. Mais et tout s'est éveillé en moi. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Ça. Vous voyez la chaleur du nid intérieur, du cœur. C'est ça le cœur quand il commence à aimer. Quand c'est dans un genre que ça fait un cœur, tant que vous n'étiez pas, vous n'avez pas vu, vous avez un cœur. Vous étiez dans l'action, vous n'avez rien. Je me suis dit plein, on s'est dit, tiens, chose extraordinaire. Je deviens quelqu'un capable tout ce qui touchera la personne, et voir immédiatement, ça me touchera. Et c'est comme ça qu'on verra, on parlera de... tout de suite, l'émotion, parce qu'on a parlé de telle personne. Non. Il y avait un amour sous-jacent. Personne ne le savait, mais on a vu que ça, on a immédiatement remarqué qu'il y avait un amour sous-jacent. Il y avait quelque chose qui... Il faut découvrir ça, ce point de vue premier de l'amour. C'est ce premier point de vue de l'amour que je regarde. Et je crois que dès que je réfléchis pour me dire est-ce que cet amour, je vais l'accepter ou pas l'accepter, parce que il faut déjà un certain sens de l'orientation de notre vie pour nous poser la question de savoir si je vais l'accepter ou pas l'accepter. Parce que la plupart du temps, les gens ne se posent pas de problème. Ils aiment, sont heureux d'aimer, ça ne tient plus, ça n'a aucune espèce d'importance. Tout amour vient de Dieu, donc c'est bon. Avec le raisonnement qu'on va donner. Alors, si tout amour vient de Dieu, c'est bon. Ah, attention, vous êtes responsable d'accepter un amour ou de ne pas l'accepter. Et donc, si tout amour vient de Dieu, attention, il ne faut pas dire que tout amour, parce que c'est un amour, est bon. Ça conduit à n'importe quoi. L'amour naît en nous, indépendamment de notre volonté, du moins indépendamment de notre liberté. Il naît de notre volonté, et c'est à partir de là que nous comprenons ce que c'est que notre cœur, la fragilité de notre cœur et sa force, parce que c'est tout de suite ça qui naît en nous. Et puis, nous sommes capables, si notre vie est déjà orientée, quand une vie n'est pas orientée, alors à ce moment-là, on ne se pose pas le problème. On a vu des quantités de personnes qui ne se posaient jamais le problème, alors qu'ils étaient très contents de trouver dans Saint Jean, tout d'abord, j'ai vu, ça me réconforte. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que cet amour, peut-être, nous fait faire des choses qui sont en dehors de ce qu'on aurait dû faire. Oui. Et là, on s'en aperçoit dans les effets, dans les conséquences. Et souvent, on s'en aperçoit trop tard. Tandis que si nous sommes déjà orientés dans notre vie, autrement dit, si au-delà de cet amour, il y a déjà une grande intention de vie, une intention de vie qui regarde Dieu, par exemple. Alors, s'il y a une intention de vie, cet amour-là, on va pouvoir le juger en fonction de cette intention de vie. Et voilà si cet amour est bon. Et alors, à ce moment-là, c'est l'intelligence qui fait ça. S'il n'y a pas cette intention de vie, il y a la personne humaine qui va donc accepter ou pas accepter cet amour en fonction de ce qu'elle est. Et c'est beaucoup plus clair quand la personne humaine, parce qu'une personne humaine est vraiment une personne humaine que quand elle a une intention de vie, quand elle est finalisée. Une personne humaine qui n'est pas finalisée, comme c'est difficile de savoir si un amour qui naît est bon ou mauvais. Et c'est ça qu'on appelle d'avoir une lucidité plus ou moins grande. Si de fait vous n'avez pas d'intention de vie, vous ne serez pas lucide du tout. Si au contraire il y a une intention de vie, ah, on devient très lucide. Parce qu'on voit tout ce qui est conforme à cette intention et ce qui n'est pas conforme à cette intention. Et c'est là où naît justement, par le point de vue de l'intelligence, le point de vue, le rapport qui existe entre cet amour et ce qui est en moi plus profondément déjà orienté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que c'est bon lié avec l'interprétation, un tas de choses. C'est pas toujours clair. Et on ne s'aperçoit pas tout de suite. Quelquefois c'est très lucide et quelquefois c'est pas très lucide. Voyez ? Mais il y a un moment donné où on devra accepter ou pas accepter. C'est pas comme signé, mais à un moment donné on devra accepter ou pas accepter. Alors vous voyez donc ici, c'est à l'intérieur d'un amour que l'intelligence va pouvoir montrer si je peux accepter cet amour ou pas l'accepter. Donc je trouve à l'intérieur de cet amour le jugement d'intelligence, la relation par rapport à mon intention de vie ou par rapport à moi-même. Il sera toujours de cette chose-là. Donc ce sera par rapport à ma personne humaine et ma personne humaine finalisée ou pas très finalisée. Plus ou moins finalisé. Et c'est donc le rapport que je vois entre les deux. Donc il y a bien l'intelligence qui intervient à travers l'amour. Et c'est l'amour vu dans ce qu'il a de très fort et d'absolu. Puisque tout amour qui porte sur une personne a quelque chose d'absolu. Et c'est pour ça que ça peut me faire peur. Mais une peur qui est sage, une peur qui est raisonnable, qui est prudentielle. Attention, risque de me mettre dans des situations impossibles. C'est vrai, ça peut arriver.
Autre chose, c'est de savoir si c'est mon devoir d'accepter cet amour de quelqu'un. Oui, c'est pas moi qui commence, c'est l'autre. Alors quand je suis en face de quelqu'un qui se suspend à moi en disant oh, mais c'est impossible autrement, je vous aime, si vous me laissez tomber, c'est bon. Alors là, c'est faux, c'est le problème. Moi je pars de la personne qui aime. Et la personne qui aime va être source d'un acte de liberté, et je crois qu'on peut dire une liberté d'exercice, il n'y a pas d'autre mot. C'est liberté d'amour. Et cette liberté d'amour, cette liberté donne naissance à l'acte d'intention. C'est pour ça que l'acte d'intention n'est jamais spontané. Il y a un certain choix, c'est pas un choix, mais une certaine acceptation de l'intention. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une acceptation. J'accepte cette intention de vie. Vous voyez, dans un problème de vocation, au fond, il y a ça. Dans le problème de la vocation, il y a ça. On accepte cet amour vis-à-vis de Dieu, on l'accepte comme finalisant toute ma vie. Et d'autres diront non, ça ne finalise pas ma vie. Si je l'accepte comme finalisant ma vie, c'est pas un choix, mais c'est une acceptation libre qui va, à ce moment-là, polariser toutes mes forces en les orientant dans un sens. Alors c'est pour ça que c'est très difficile de qualifier cette liberté. Liberté d'adhésion. Liberté d'acceptation. En même temps, on a l'exercice même de l'acte. Quand il s'agit de la liberté de choix, oui.
Si j'en juge par rapport à une intention de vie, d'une certaine façon, ça en fait un choix. Comme...
Oui, pas tout à fait un choix, en ce sens que c'est plus qu'un choix.
Parce que c'est toujours une personne, donc il y a toujours un absolu.
C'est ça. C'est à cause de ça. Mais c'est très bien, il y a un certain choix. Parce que le choix de poser là comme un problème, d'accepter d'adhérer, de pas adhérer. Il y a un certain choix, je suis d'accord, il y a un certain choix. Mais je ne vais pas dire que c'est le choix. Même pour un ami, à cause d'un ami. Quand on dit un ami, je t'ai choisi, c'est très vrai. Un ami, au fond, ce qui serait le plus vrai de dire, j'ai accepté. J'ai accepté un nouveau but. Et en fait, c'est un choix. En dernier lieu, il y a un choix. Oui. Parce que peut-être que l'une période, là, on voit. Oui.
Est-ce qu'il y a d'amour personnel, d'amour propre sur une personne, mais la personne où on va impliquer pour que l'amour puisse grandir, qu'il y ait un exercice réciproque, lui, au niveau des moyens. Donc, quand on juge d'un amour
à la pas uniquement. Je ne dirais pas, mais vous avez des moyens. Je crois que le choix, la réciprocité, est au niveau de l'intention de vie.
Il y a quelque chose qui est au niveau où vraiment on atteint l'intention de vie.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait, qui est de l'ordre du conditionnement.
Quand on juge d'un amour à l'égard à la lumière de l'intention de vie, est-ce que ça va beaucoup plus par rapport au conditionnement que par rapport à la priorité? Parce qu'en soi, un amour vraiment.
Non, c'est pas nécessairement l'autre.
Donc, c'est pas, exclu,
c'est pas nécessairement exclusion. Je vois pas pourquoi vous mettez exclusion.
Quand on refuse un amour à cause d'une intention de vie.
Bah, c'est peut-être pas une exclusion. C'est peut-être pour autre chose. C'est pas nécessairement une exclusion.
On exclut quand même l'amour.
Qui... On n'accepte pas cet amour. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Ah, moi, je croyais que c'était à cause d'autres... Que le premier amour excluait celui-là. On la considère pas, on la rejette.
Voilà, c'est ça. Et c'est quand même par rapport à certains. C'est par rapport à des moyens, d'une certaine
manière. Non, c'est pas un moyen, c'est un amour.
Parce qu'en soi, un amour spirituel ne veut pas. Oui.
Un amour spirituel n'est pas un moyen.
On ne va pas accepter l'amour,
oui.
Mais parce qu'on sait qu'on ne pourra pas prendre les moyens pour l'amour.
Ah non, non. C'est pas à cause des moyens, c'est en lui-même. Moi, je crois.
Oui, mais quand c'est jugé par rapport à une autre attention,
Oui, par rapport à une autre raison de vie ou par rapport au sujet de la personne humaine. Je crois. Je crois que l'intelligence peut avoir cette lucidité par rapport à un amour, de considérer que cet amour, il est bon pour moi. Si j'ai une intention de vie, c'est très l'intention profonde de ma vie, ce sera tout de suite ça en référence, mais je peux aussi le considérer par rapport à moi-même. Raison, je ne veux pas entrer là-dedans, je cherche quel est le type de cette liberté. Parce qu'autre chose, ça, c'est très multiple ça. On pourrait se poser la question, c'est évident, savoir que quand peut-on refuser un amour? Quand peut-on refuser un amour qui est en nous? C'est pas ça que je cherche ici, hein. C'est mon problème. Je cherche quel est le type de liberté dans ce fait que j'accepte ou que je n'accepte pas cet amour. Et quand on dit accepter ou pas accepter, c'est comme ça que se formule la liberté d'exercice. Vous voyez, c'est la négation et l'affirmation. Parce que je ne regarde pas au fond le bien, mais j'accepte, c'est le point de vue de l'exercice. Est-ce que j'accepte que cet amour s'épanouisse en moi? Au contraire, je n'accepte pas que cet amour s'épanouisse en moi. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la liberté de choix, il s'agit des moyens, et donc il ne s'agit pas là de l'exercice des moyens, il s'agit d'un moyen par rapport à un autre moyen. Donc il y a l'aspect de la détermination. C'est les déterminations qui importent. De l'autre côté, c'est l'exercice. Alors, est-ce que dans l'imperium, je vais retrouver un petit mélange des deux? Je crois. Dans l'imperium, fais ceci ou ne fais pas cela. C'est bien une liberté d'exercice. Donc, si, c'est très nettement. Une liberté d'exercice qui est beaucoup plus conditionnée, beaucoup plus déterminée que l'autre. Sauf que d'une certaine manière, dans cet acte d'impérium et cette liberté d'impérium, on retrouve les deux. Liberté d'exercice, liberté de choix. Parce que c'est en fonction de ce choix que j'accepte ou j'accepte pas. Donc la liberté de choix est présente. Et d'une certaine manière, c'est une synthèse des deux. C'est quelque chose de particulier. Alors, il y aurait cette chose importante à voir. Mode de liberté dans l'ordre du facere, ça c'est encore autre chose, dans l'ordre de l'activité artistique. Dans l'ordre de l'activité artistique, l'artiste a une liberté beaucoup plus grande que l'homme moral. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est commandé par son inspiration. Dans l'ordre artistique, on est libre en fonction de son inspiration. À quelqu'un qui n'a jamais eu aucune inspiration dans l'artistique, n'est-ce pas, il n'a pas de liberté. Il obéit. Tandis que celui qui a une certaine, dans son facere, qui a une certaine inspiration, même des inspirations profondes, en fonction de cette inspiration, il accepte, n'accepte pas, il critique. Donc vous voyez que la très grosse différence entre ces deux types de liberté, c'est que celle-là naît à partir de l'amour, celle-ci naît à partir de l'intelligence. C'est pour ça que du côté du facere, il n'y a pas d'obéissance. Et l'obéissance ne peut exister que du côté moral. Alors, dans la mesure où le facere, l'activité artistique, l'emporte sur l'activité de l'agir, de l'agir, la liberté, l'obéissance diminue. Alors ça, je crois que c'est capital de comprendre ça. Pour notre vie, pour être un peu lucide, et pour la vie des autres. C'est capital de comprendre ça. C'est capital de comprendre que dans l'ordre du facere, il n'y a pas d'obéissance possible. Pourquoi? Parce que la liberté repose sur l'inspiration. C'est une liberté donc extraordinairement lucide. On a la certitude avoir raison. Un artiste, il sait. Il sait que c'est ça. Il voit tout de suite les bêtises qui sont de l'autre côté. Tandis que du côté de l'agir, vous n'avez jamais la certitude d'avoir raison. Et c'est pour ça que l'obéissance est possible. De l'autre côté, c'est impossible. Alors, dans la mesure où le facere contamine l'agere, l'obéissance devient impossible.
c'est Sartre.
C'est la position d'une morale qui est contaminée par l'efficacité. Une morale où l'efficacité domine, il n'y a plus d'obéissance. Alors vous la rattrapez en disant mais oui, il y a une obéissance pour le bien commun. C'est plus l'obéissance. Il y a une obéissance d'efficacité. Non, c'est pas ça, l'obéissance. Il y a une obéissance de l'efficacité. L'obéissance est autre chose. C'est en l'ordre de l'amour. C'est le troisième type de liberté, liberté religieuse. Lisez le texte du concile, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors là, il faudrait voir les deux positions, celle de Maritain et celle des autres. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,